Belgique.
Bonjour. Dans ce numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, vous le savez, nous allons parler de la nation, de la notion de nation, ce plébiscite de tous les jours, pour reprendre le mot fameux d'Ernest Renan, mais en sortant du cadre national. Nous sommes cette semaine en compagnie de Pascal Horry, un des grands historiens français. Il étudie ce sujet depuis des lustres. Il vient d'écrire « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale ?» un livre qui donne à penser justement parce qu'il envisage le sujet globalement. N'écrit-il pas « La nation est une figure mondiale. S'il y a bien un objet d'histoire globale, né quelque part et diffusé partout, c'est bien celui-là. » Voici donc un nouveau numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio, www.rfi.fr, sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être à ce micro. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir dans cette émission. Je l'ai dit, vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Paris 1, auteur de nombreux ouvrages sur la nation justement, mais aussi sur l'histoire culturelle et intellectuelle en France. Et là, vous vous attaquez à un sujet avec une vision absolument originale. Ce sujet, c'est la nation, et vous avez voulu la définir avec une perspective mondiale, donc.
Oui, d'une certaine façon, le sous-titre est en partie la réponse à la question, mais ça ne suffit pas, parce que dire que c'est une histoire mondiale me paraissait évident d'emblée, alors qu'au fond, ça peut surprendre, parce que effectivement, il y a une sorte de contradiction entre la nation et la dimension mondiale.
Parce qu'en général, la nation enferme.
Oui, aurait tendance à mettre en lisière, en effet, le mondial. Alors que ce que je dis entre autres, c'est que par exemple les processus dits de mondialisation, qui sont d'ailleurs anciens, multiséculaires, s'accélèrent, et d'une certaine façon, ça n'accélère pas du tout le mondialisme, voire même l'internationalisme. Je suis né à une époque très internationaliste. Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu 20 ans dans une période qui était le sommet, l'apogée de l'internationalisme, vers 68. Et je dois évidemment reconnaître que la nation n'a fait que se renforcer depuis ce temps-là, contrairement aux prophètes de l'époque.
Et c'est justement, Pascal Horry, à cette époque, vous l'expliquez très bien dans votre préface, que vous avez commencé à vous intéresser à cette notion de nation, et également à cette notion qui est très importante, on y reviendra, et qui sent un peu la poudre, la notion d'identité.
Ah, exactement, et c'est très pertinent de commencer par l'identité, parce que c'était un débat déjà entre nous, je ne dis pas 68 heures, mais contemporains de 68, et c'était plutôt l'identité individuelle qui était mise en avant, ou l'identité mondiale, en effet, et l'identité nationale là-dedans, alors que le chef de l'État français s'appelait Charles de Gaulle quand même. Mais Charles de Gaulle appartenait à l'histoire déjà de son vivant, et d'une certaine façon au passé. Et effectivement, quand j'avais 20 ans, la nation, c'était le passé, c'était dans les programmes, le 19e siècle, l'unité italienne, bon d'accord. Par ailleurs, c'était évidemment le mal, puisque ça conduisait au nationalisme, pour ne pas dire à la xénophobie, pour ne pas dire au racisme. Et puis alors, pour les intellectuels que nous étions, c'était plus subtil, c'était construit, sous-entendu un peu imaginaire, c'était au fond une mystification. Alors que la réponse à ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que toute institution politique est fondée sur du symbolique et de l'imaginaire. Mais l'internationalisme, c'est drôlement imaginaire aussi. Donc, après tout, la nation, c'est un imaginaire qui a mieux réussi pour l'instant que l'internationalisme.
Alors ce mot nation, ce concept de nation est finalement indéfinissable. On court toujours après une définition précise de cette nation.
Alors, intitulant après Ernest Renan, que vous avez cité à juste titre,
et que je vais reciter dans un instant,
voilà, mon livre « Qu'est-ce qu'une nation ?», je devais quand même, par honnêteté à l'égard du lecteur, de donner ma réponse, oui, qui n'est pas simplement une histoire mondiale. Et ce n'est pas une réponse que je donne à la dernière page, mais plutôt assez tôt. Elle est en 6 mots. Bon, après, on peut en discuter pendant 6 heures, bien sûr. Mais c'est un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand P. En d'autres termes, c'est une identité, en effet, culturelle, à base politique d'ailleurs, qui fait qu'il y a des Estoniens et puis des Lettons. C'est la fameuse question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi est-ce qu'il y a des Estoniens après tout? Pourrait-il ne pas y en avoir? Ça serait des Russes ou serait-ce des Lettons, par exemple? Ben, il y a des Estoniens et puis des Lettons et puis des Russes. Bon. Ça, c'est la communauté initiale. Mais ça ne suffit pas à faire nation. Pour qu'il y ait nation, il faut qu'on entre dans les temps modernes, progressivement du XVIe siècle au XVIIIe, et d'une certaine façon, sous nos yeux, il en est je dis pas tous les jours, mais on est en train d'en voir naître encore, sous la forme de nations, de revendications nationales, et pourquoi pas un jour d'État-nation, eh bien, il faut qu'il y ait la souveraineté populaire. Et ça, c'est la grande révolution moderne.
Alors, je vais citer Ernest Renan dans sa célèbre conférence de 1882, qui revient quasi systématiquement dès qu'on parle de la nation, d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. Et j'ai tenu à rendre hommage à ce texte, qui, j'en recommande la lecture, est très très court, très dense, très clair, pas du tout obsolète et très pertinent, me semble-t-il, en mettant un extrait de cette conférence de Renan en tête de chaque chapitre.
Alors, qu'est-ce qu'une nation? Une conférence qui date du 11 mars 1882 à la Sorbonne, un lieu que vous connaissez bien, oui. Pascal Horry. Alors, voici un extrait de ce texte, court texte. Une nation, selon Ernest Renan, est une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a fait et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune, l'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, c'est Ernest Renan qui écrit, l'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Un plébiscite de tous les jours, la phrase est immortelle maintenant.
Oui, et à mon avis très pertinente. Alors il faut traduire peut-être aujourd'hui le mot plébiscite, on ne sait pas toujours que c'est synonyme de référendum, on dirait plutôt référendum. Donc il faudrait imaginer que chaque citoyen de toute nation, alors quand je dis d'ailleurs citoyen à chaque membre, bon, citoyen, par exemple, il y a un État-nation, tous les matins, je dirais en se brossant les dents, pourrait se dire, mais est-ce que je continue à être, je ne sais pas, letton, en effet, ou estonien, ou est-ce que finalement, je fais dissidence, quoi. Et ça va assez loin. Alors, ce que je fais remarquer, parce que personne ne le dit, c'est que plébiscite, quand il prononce la phrase, c'est un mot sulfureux pour les républicains, parce que qui a utilisé, réutilisé sans arrêt le plébiscite, c'est Napoléon III, après son oncle, Napoléon Ier. Mais justement, c'est que Napoléon Ier comme Napoléon III sont on peut dire des dictateurs, mais modernes, et qui ont intégré la souveraineté populaire. Et Napoléon Ier comme Napoléon III, régulièrement, se ressourçait dans des plébiscites qui étaient généralement extrêmement victorieux, sauf d'ailleurs le tout dernier, juste avant la guerre de 70. Plébiscite de tous les jours, ça c'est tout à fait remarquable, et je pense que c'est toujours vrai.
Alors que faut-il, Pascal Horry, pour qu'il y ait une nation? Il faut qu'il y ait forcément un peuple, vous l'avez dit, hein, c'est à la base de votre définition. Il faut aussi qu'il y ait un territoire.
Alors, le peuple pourrait être à la limite nomade. On peut s'interroger sur la nationalité rome, par exemple. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un rapport à un territoire. Et surtout quand on passe à l'État. Qu'est-ce que serait un État rome? Il peut y avoir une protection par l'ONU ou d'autres organisations internationales de l'identité rome, mais en revanche, qu'il y ait une territorialisation, c'est absolument indispensable. Les Magyars sont d'abord des nomades, ou le mythe turc est que ce sont des nomades, mais qui finissent par s'arrêter quelque part. Et dans un chapitre, je reviens sur l'enjeu, effectivement, du territoire, avec des nations qui sont par exemple aujourd'hui traumatisées par des déplacements de territoire. La Pologne a été mise sur roulette. Elle s'est déplacée récemment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même très récent pour un historien, vers l'Ouest, par exemple. Alors, le grand traumatisme qui explique beaucoup de choses en ce moment, c'est la Hongrie. Peau de chagrin après le traité de Trianon, etc. Donc, clairement, le rapport au territoire est important, mais bien entendu, c'est un rapport complexe avec une notion de frontière qui est liée justement à la modernité politique. Au Moyen-Âge, la notion de frontière n'a pas du tout le sens qu'on a établi aujourd'hui avec un État fort, des délimitations, des douanes, etc. Et puis, je reviens aussi sur la question de la capitale. C'est assez fascinant de voir comment une nation se donne une capitale.
Une capitale, un État et un nom aussi, très important, Pascal Horry. D'évidence, quand on parle de peuple, ce sont les peuples qui ont été fixés, parce qu'il y a aussi les peuples d'avant la construction de la nation.
Tout à fait. À partir du moment où on admet avec moi que la construction de la nation, comme vous le dites justement, c'est quelque part entre le 16e siècle et ce moment où nous parlons, il était bien qu'avant, vous avez des peuples qui fonctionnent comme des communautés plus ou moins autonomes, plus ou moins dominées, parfois rayées de la carte. Et d'ailleurs, déjà, tous ces peuples préhistoriques, c'est-à-dire avant qu'il y ait des traces d'écriture, qui font qu'on ne saura jamais qu'ils ont existé, sauf peut-être qu'ils laissent des vestiges, mais on ne saura même pas le nom qu'ils ont. Et quant au nom lui-même, c'est très intéressant de voir comment il faut distinguer les noms qu'on se donne et les noms qu'on vous donne. Hein, l'Albanie n'est pas Albania pour un Albanais. Hein. Donc c'est très intéressant de voir pourquoi on choisit un nom, à quel moment, ce qu'il signifie. On a longtemps pensé, par exemple, que France, franc, c'était les hommes libres au dernier ouvrage, ce serait plutôt les gens hardis. Mais enfin, généralement, ce sont des qualificatifs valorisants. Très souvent, ça se ramène à qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes les hommes. Voilà. Mmh. Et sans parler de l'empire du milieu. Donc il y a ça, et il y a fatalement, dans cette configuration pré-nationale, mais fondatrice, évidemment, vous avez des rites en commun, que l'on appelle rapidement religion, mais je me permets toujours d'insister sur le fait que nous sommes en général, pas simplement les Occidentaux, mais par influence occidentale, déformés par l'acception chrétienne de la religion qui est liée à un dogme. La religion, c'est une affaire de rites. C'est-à-dire pour ça que les chrétiens ont des problèmes avec les Romains. C'est qu'ils n'acceptent pas faire les rites. Donc ces peuples avec un petit P, ils ont généralement deux langages, la langue, qu'ils peuvent partager avec des voisins, mais il y a quand même des inflexions, etc. Et d'autre part, évidemment, des rites, c'est-à-dire une religion. Ce qui explique que, par exemple, les Hébreux ne sont pas exceptionnels. Ils ont leur religion qui, bizarrement, est monothéiste. Bon, ça, où est le problème ? En revanche, quand arrive l'hypothèse universaliste du christianisme, prolongée par celle de l'islam, voire par celle de l'internationalisme laïque, là, il y a un problème.
Il y a un choc des cultures, d'évidence. Alors, la nation, donc, le territoire, et cette nation se constitue avec un État, ou c'est l'État qui suscite la nation.
Alors, pour moi, la communauté culturelle, qui est donc ce peuple, elle ne s'explique, parce qu'on pourrait dire, ça tombe du ciel, comme ça. Non, c'est qu'il y a eu une expérience politique commune, mais politique au sens où les barouillas de Nouvelle-Guinée, par lesquels je...
Cher à Maurice Godelier, oui, que vous citez dans le livre, et on salue Maurice Godelier,
voilà, qui nous a Maurice laissé... Godelier et tant d'autres, ouais. Les barouillas qui se distinguent de leurs voisins...
De Nouvelle-Guinée, il faut
de
le
Nouvelle-Guinée, de toutes les façons, ont fait, puisque vous parliez à juste titre du commun, ils ont fait un commun qui signifie qu'ils s'organisent politiquement. Il faut accepter de parler de politique pour ceux qu'on considère souvent, entre guillemets, comme des tribus, disons, des peuples. Eh ben, ils ont une forme de hiérarchie, une forme d'autorité, une forme de défense par rapport aux, entre guillemets, tribus, donc peuples voisins, etc. Donc, c'est du politique. Hein, c'est du politique. Donc, la source ultime, c'est quand même qu'on accepte de faire politique commune. Et ce que Maurice Godelier avait bien montré, c'est que ce peuple qui était supposé remonter à l'âge de pierre, parce que il avait une technologie de l'âge de pierre, ne remontait pas plus loin que le 18e siècle. Parce qu'il avait fait scission à ce moment-là par rapport à un autre peuple.
Alors, il y a l'État, on en reparlera sans doute. Il y a le peuple, la nation, le peuple, on y revient, la souveraineté populaire. Et là, il y a une période de charnière dans la réflexion autour de la souveraineté populaire. C'est le 17e siècle et surtout le 18e.
Oui, je pose, là aussi, c'est ma thèse, et je constate que on n'avait peut-être pas assez réfléchi à ça au départ, quatre révolutions fondatrices de cette modernité, fondée sur la souveraineté populaire, avec un lien avec le protestantisme qui me paraît tout à fait clair, ça on pourrait y revenir, pourquoi y a-t-il aujourd'hui une Finlande, c'est l'explication c'est le protestantisme, on n'y pense pas trop.
On va
y revenir. Donc, vous avez d'abord la révolution néerlandaise, qu'on oublie toujours, mais quand Barack Obama est venu aux Pays-Bas, à l'époque où il était président, on lui a montré, et il était très conscient, le plakkaat, donc le grand texte fondateur de l'indépendance des Pays-Bas, Provinces Unies, considéré effectivement aussi bien par Barack Obama que par les Néerlandais, comme ayant inspiré la déclaration d'indépendance des États-Unis. Vous avez ensuite la révolution anglaise, qui, elle, est une manière surtout de fonder la souveraineté populaire dans un sens un peu aristocratique, qui s'appelle le Parlement. Bon, c'est vraiment le parlementarisme moderne, mais c'est quand même capital. Troisième étape, évidemment, la révolution américaine. Du coup, la révolution française n'arrive qu'en quatrième.
Vous nous donnez une perspective, effectivement, dans votre livre, Pascal Horry, c'est-à-dire qu'il y a, bon, vous parlez beaucoup de la révolution américaine. D'ailleurs, vous nous publiez un extrait de cette déclaration d'indépendance de 1776, et un peu moins de la révolution française, finalement, qui est un peu à la traîne.
Oui, c'est une façon, je suis fatalement, indéfectiblement citoyen français, mais... Je dois reconnaître que cette révolution a des traits spécifiques. Elle est la plus démocratique des quatre. Elle est la plus radicale aussi. Et puis, elle est celle qui, dans un premier temps, échoue. Les trois premières dont je viens de vous parler, ce sont des victoires. Mais elles sont adossées au protestantisme. La quatrième, la révolution française, qui va d'ailleurs accoucher de la laïcité comme solution à ce drame, elle se heurte au catholicisme. Et donc, évidemment, l'orientation de la révolution, y compris sa radicalisation, vont donner un ton, un ton à la Révolution française qui va fasciner d'ailleurs à l'étranger. Il y a un des pays dont je parle relativement beaucoup est la Turquie. Bon, c'est quand même frappant de voir que les jeunes Turcs, la petite organisation jeune Turc initiale, se crée le 14 juillet 1889 à Istanbul. Donc, il y a un modèle français, mais ce n'est qu'un modèle. Aujourd'hui, on l'a vu à l'occasion des élections présidentielles américaines récentes, vous avez un pays qui s'appelle les États-Unis qui a la même constitution depuis 1787-89. La France en a usé 12. Un texte constitutionnel.
Mais vous accordez une place particulière à cette révolution américaine, Pascal Horry.
Mais parce que elle est clairement démocratique. La révolution néerlandaise est une révolution de libération d'un peuple qui affirme clairement face au roi d'Espagne que le peuple est souverain et qui ne veut plus de ce mauvais prince, dans une perspective très biblique, le tyran, le mauvais prince. J'allais dire rebelote, en tous les cas, révolution anglaise, mauvais prince. Et on se recentre sur le protestantisme, c'est la révolution de 1688. Quand François Mitterrand a commémoré, donc célébré, on peut le comprendre, et c'était sa fonction, le bicentenaire de la révolution française, Madame Thatcher, malicieusement, lui a fait remarquer que eux, les Anglais, avaient un siècle et un an d'avance. C'est évidemment pas la même révolution, hein. Effectivement, elle est moins démocratique. Elle est libérale, mais c'est très important, une révolution libérale. Et puis, les États-Unis, c'est clairement une révolution démocratique, ce qui se prouve par ce point que beaucoup de Français ont, que tous les Français quasiment ont beaucoup de mal à comprendre. Par exemple, ce fédéralisme foncier qui fait que c'est pas un vote populaire et qu'il y a des grands électeurs, hein, par exemple. Alors évidemment, l'anti-France, l'inversion de la France par excellence, c'est la Suisse. C'est la Suisse, qui ouais. Pourtant est un pays très fondateur aussi.
Alors, avant de dire un mot, peut-être plus qu'un mot, du protestantisme qui vous est cher, Pascal Horry, il faut parler de l'influence aussi des Français dans le domaine de la pensée, dans cette fabrication de la nation. Et je pense notamment à Jean-Jacques Rousseau, pour ne citer que lui. Il y a John Locke au siècle précédent pour les Anglais.
Oui, je revalorisais Locke aux yeux des Français. Pour les anglophones, Locke, c'est évident. Entre les deux, il y a Montesquieu, qui va être entendu aux États-Unis.
Rousseau, sur la séparation des pouvoirs.
Voilà. Et Rousseau, bien entendu, parce que lui va plus loin dans l'analyse, y compris dans les contradictions chez Rousseau ou dans ce qu'il constate de la fameuse démocratie. Rousseau qui est quand même d'origine, alors non pas suisse, parce que la Suisse n'existe pas à cette époque-là, il est genevois. Donc là, c'est la République de Genève, et ça dit beaucoup de choses. En tous les cas, ses origines genevoises, le mythe qu'il construit d'ailleurs du canton idéal, tout ça va inspirer, en effet, en particulier la révolution radicale en France, et puis après, bien d'autres.
Alors la particularité de cette révolution américaine, cette indépendance 1776, cette déclaration de Philadelphie en 1787, c'est qu'elle a créé un État, une nation et progressivement un territoire.
Tout à fait, en évolution permanente, notion de frontière.
Dans un laps de temps très court finalement à l'échelle de l'histoire.
Tout à fait. Et alors, j'insiste aussi sur un point qui m'est cher, parce que on n'y pense pas, et c'est un peu une réaction face au ronron de l'époque de ma jeunesse et que les études qu'on suivait. On parle de décolonisation, et à RFI, on connaît le sens de ce mot. Mais décolonisation, on a l'impression que ça se produit essentiellement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je dirais à partir de Inde, Pakistan, après l'Afrique, etc. Mais attendez, la première décolonisation moderne, c'est les États-Unis. Ce sont des colonies qui se révoltent contre la métropole et qui gagnent. Bon. Deuxième étape, l'Amérique latine.
Bien sûr.
L'Amérique latine.
Et vous soulignez d'ailleurs la fragmentation, hein, la création de tous ces États en Amérique latine, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il n'y en ait qu'un.
Oui, alors que c'est une réussite pour les Portugais avec le Brésil. Et bon, c'est pas un grand mystère, c'est que la cour portugaise, quand elle lutte patriotiquement contre Napoléon Bonaparte, elle s'installe à Rio de Janeiro. Donc, effectivement, le rapport de la métropole, qui n'est plus vraiment la métropole, puisque la métropole est aux colonies, en quelque sorte, est beaucoup plus fort. Et puis, le coup de génie de l'héritier du trône portugais, qui prend la tête de la révolte contre la métropole. Dom Pedro, donc c'est assez extraordinaire.
Parce qu'une chose est de créer un pays comme aux États-Unis avec une constitution, un État et un peuple constitué de peuples du monde entier. Une chose est de créer une nation comme en France sur les débris, les ruines d'une nation. Une chose est de créer quelque chose à partir de rien, une chose est de créer une nation, un État à partir d'une histoire.
Exactement, il y a plusieurs modèles, il y a une typologie. On imagine bien que le destin des nations de l'Afrique subsaharienne est très différent du cas français, où vous avez déjà, depuis des siècles, un pouvoir central. Donc le modèle français va être un modèle unitaire, centraliste, continuiste, Tocqueville a été le premier, une cinquantaine d'années après la Révolution, à dire, attendez, mais le préfet que j'ai sous les yeux, le préfet bonapartiste et républicain ensuite, bah, c'est un héritier des intendants de l'Ancien Régime. Donc il a insisté sur la part de continuité derrière l'évidente rupture de la Révolution française. Donc c'est une chose d'avoir un État, c'est une chose d'avoir eu un État, de ne plus l'avoir, la Pologne par exemple, puis c'est une chose de créer quasiment en même temps la nation et l'État.
Et vous prenez aussi l'exemple très important, surtout aujourd'hui, de la Chine également, la continuité.
Oui, c'est tout à fait évident. Et l'idée de continuité qui est intégrée même à la notion de Chine. Donc c'est non seulement le milieu, donc ça c'est géographique, l'empire du milieu, le pays du milieu, mais c'est aussi une grande continuité qui fait que Sun Yat-sen, moi ça m'avait impressionné quand j'ai découvert ça, donc le fondateur du grand parti national chinois, du Kuomintang, va rendre hommage à un empereur symbolique choisi dans le passé. Donc celui qui est un profondément républicain, qui est converti au protestantisme. Quand même, vous imaginez, le fondateur de la Chine moderne était un protestant. Non, mais ça dit beaucoup de choses. Dit beaucoup de choses. Ben, rend hommage à cet empereur.
Alors venons-en au protestantisme. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce protestantisme, qui lui permet en fait d'apporter la démocratie sans heurts, finalement?
Petite remarque préalable, je ne suis pas de culture protestante.
Non, mais vous pourriez l'être, ça serait respectable.
Mais je précise, donc je suis au départ de culture catholique. Ce qui m'a frappé, c'est le lien qui s'établissait entre l'émergence de la souveraineté populaire et la réforme protestante, qui est une vraie révolution intellectuelle, qui en particulier décide qu'on va se passer des corps intermédiaires. Le pasteur n'est pas un prêtre, hein, c'est très important. Il y a un rapport direct entre le sauveur et le sauvé, ou du moins celui qui espère l'être, le fidèle, et que ça va passer en particulier, il n'y a pas que ça, il y a le sacerdoce universel, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Chacun d'entre nous est prêtre, bon, vous imaginez. Pour ce qui est de l'individualisme libéral, c'est capital. Mais il y a aussi le fait que désormais, il faut pouvoir atteindre la parole du sauveur dans la langue vulgaire, la langue vernaculaire, et donc traduire la Bible. Luther fait partie des grands écrivains allemands. Il est cité dans l'histoire de la littérature allemande puisqu'il a traduit en allemand la Bible. Et l'exemple de la Finlande que je signalais tout à l'heure est tellement éclairant, et aussi l'exemple de la langue galloise, on s'y attend pas, bon, dans la démonstration, c'est que s'il y a aujourd'hui une Finlande, c'est qu'il y avait effectivement un peuple, petit p, finnois, mais sous domination traditionnellement, depuis plusieurs siècles, suédoise. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a encore en Finlande une minorité suédoise avec son parti, etc. Bon. Mais une domination assez douce, pour diverses raisons. Ce qui fait que quand les Suédois ont choisi le luthéranisme, et ce que l'on ne sait pas, c'est que la première école, église nationale, école aussi d'une certaine façon, protestante, c'est celle de Suède. C'est pas celle d'Angleterre, c'est celle de Suède. Et, les dominés, les Finnois, ont adopté. Comparaison immédiate avec l'Irlande, par exemple, dominée par les Anglais, mais qui reste catholique, justement, par haine, d'une certaine façon, distinction, ou les Polonais qui restent catholiques. Bon. Là, non, au contraire, adhésion complète. Ce qui veut dire que, immédiatement, la Bible, les textes sacrés, sont traduits en finnois. Et donc, ça donne une légitimité, une omniprésence à la langue finnoise, qui fait que elle pourra résister, ensuite, par exemple, à l'impérialisme russe.
Sans parler du capitalisme et du protestantisme, cher Max Weber.
Tout à fait, parce qu'il y a une sorte de dynamique économique et sociale qui fait qu'une forme de modernité, ça c'est quand même confirmé, même si les pays catholiques suivent, hein, est animée par cet esprit protestant.
Alors il y a la continuité de l'État, de la nation, on vient d'en parler, il y a aussi ces nations créées après la colonisation. Vous nous avez dit que ça a commencé par les États-Unis, l'Amérique latine ensuite, et il y a très récemment, dans le siècle qui n'est pas si ancien, le XXe siècle, il y a eu une vague de décolonisation, entre guillemets, dans ce qui fut l'URSS.
Tout à fait. Et entre les deux, on peut dire que le virus, mais un virus sans doute positif aux yeux de tous les nationaux, du national est passé dans les colonies, dans les pays d'outre-mer. Alors, c'est très impressionnant en ce qui concerne, par exemple, l'Algérie, ou en ce qui concerne l'Inde. Hein, parce que Nehru, c'est quand même à la fois un brahmane, puis quelqu'un qui est allé faire ses études au sommet en Angleterre, et qui en a ramené, d'une certaine façon, le patriotisme, mais à usage indien. Et évidemment, ça vaut pour à peu près tous les fondateurs de ces nouveaux États qui ont reçu la souveraineté populaire, et qui ont reçu le message 5 sur 5, eh ben on l'applique désormais contre le colonisateur. Mais ça voulait dire que l'esprit national s'enracinait. Dans ma jeunesse, effectivement, on était très internationaliste, dans, en tous les cas dans certains milieux, on ne peut pas généraliser, et on ne voyait pas que, par exemple, dans FLN, il y a N, que dans FNL Vietnam, il y avait N.
Front de Libération Nationale.
Voilà, etc. Donc cette dimension nationale n'est pas négligeable. Et surtout, vous pouvez dire, oui, c'était une concession qu'on faisait parce que Parti communiste, internationaliste, mais aujourd'hui, résultat des courses, le national l'a emporté. Regardez ce qu'est la Corée du Nord aujourd'hui. Moi, je me suis plongé dans les textes constitutionnels de la Corée du Nord. Bon, dans quelle mesure sont-ils respectés? C'est d'un nationalisme intégral, bien entendu. Alors que tout ça est au départ marxiste-léniniste.
Et donc sur les ruines de l'URSS, ce pays qui se voulait un, sont nés dans les années 90 du XXe siècle de nouveaux États.
Exactement.
Et on en voit encore aujourd'hui la conséquence parfois.
Oui, parce que URSS, c'est une remarque qu'il faut élémentaire, c'est un test que je faisais passer à mes étudiants en quelque sorte, parmi d'autres. Je leur disais, bon, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ça évoque quoi comme connotation? Et au bout d'un certain temps, ils comprenaient que c'est un nom d'État qui n'est pas géographique. Ça veut dire que le monde peut devenir une union de républiques socialistes soviétiques, ce qui était le projet de Lénine et de Trotsky, donc c'est très raccord. Sauf que ce grand projet anational, il a duré 72 ans et il s'est effondré. La Commune de Paris peut être un mythe immortel parce qu'elle a duré 72 jours. Mais 72 ans, bon. Et le résultat, c'est que dès l'époque de Staline, on sent très bien qu'il y a un jeu subtil avec le nationalisme grand russe, comme aurait dit Lénine pour critiquer Staline d'ailleurs, et d'autre part dans cette mosaïque de républiques emboîtées, ayant des statuts variés, mais théoriquement souveraines, à tel point qu'il y avait à l'ONU même un siège pour la Biélorussie et un siège pour l'Ukraine, ce qui était quand même très ambigu, et finalement l'Asie centrale. Parce que d'une part, vous avez la libération nationale des démocraties populaires européennes, des Pays-Baltes, tout ce que vous voulez, mais par ailleurs, vous avez des réalités aussi problématiques au départ que la notion de Kazakhstan, qui s'est même à un certain moment, on n'a même pas su s'il fallait dire Kyrgyzstan ou Kazakhstan. Enfin bon, c'est dire, et peu à peu, ça s'installe. Personnellement, je me rappelle l'expérience très intéressante. J'étais retrouvé à visiter l'Ouzbékistan. Ben, l'Ouzbékistan, il y a déjà une dizaine d'années, était un peu la France du 19e siècle. Il était en train de se créer tout son système symbolique avec Tamerlan, qui était pour les Ouzbeks, pas pour les Irakiens, mais pour les Ouzbeks, qui était à la fois Louis XIV, Napoléon, tout ce qu'on veut, avec le fait que était né dans le territoire ouzbek, mais évidemment, il n'était pas spécifiquement ouzbek, certainement pas, il n'y avait pas d'identité nationale ouzbek à ce moment-là, le fondateur des algorithmes. Bon, donc, l'Ouzbékistan faisait comme faisait la France, l'Allemagne, etc., se créer sa mythologie nationale. Et ce qui est important, c'est que ça marche.
Alors, il y a des cas, Pascal Horry, où ça ne marche pas, où il y a conflit. Je pense par exemple à l'Ukraine.
Évidemment, parce que c'est pas ici que je vais faire un cours sur l'Ukraine, je ne suis pas légitime. Mais quand même, il est clair qu'il y a un rapport étroit entre l'identité russe et l'Ukraine, Kiev. Bon. Et en même temps, la mise à distance de cette périphérie de la Russie, qui se perçoit comme dominé par ce pouvoir central qui est désormais pétersbourgeois ou moscovite, peu importe. Et donc, c'est assez tardivement, évidemment, fin 19e, qu'on voit apparaître tout un débat sur la langue ukrainienne. Ah oui, tiens, c'est pas le russe. Ah bon, d'accord. Et des mouvements nationaux ukrainiens. Et en 1917-1920, l'Ukraine est le lieu d'une expérience politique très importante, avec d'ailleurs des contradictions, parce que grosso modo, il y a trois familles politiques qui s'entrécharpent en Ukraine, ce qui facilite le travail des bolcheviks.
Qui pense le monde.
Qu'est-ce qu'une nation? Donc la question que vous posez dans ce livre, qui est le titre de votre livre, Une histoire mondiale, Pascal Horry, cette question résonne chez nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment en Afrique. Qu'est-ce qu'une nation dans des pays qui ont été souvent créés artificiellement?
Oui, et ce ne serait pas la première fois. Déjà, si on monte vers l'Afrique du Nord, la France a contribué à constituer la notion d'Algérie. Alors après, là aussi, j'imagine bien que dans l'enseignement scolaire en Algérie, il y a l'idée qu'il y a une identité algérienne de toute éternité. Bon, et que Abdelkader est déjà un patriote, etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et en tous les cas, ce qui est évident, c'est que la marque de la colonisation à la française, avec un lieu central qui s'appelle Alger, avec des départements, et puis qui vont se transformer en wilaya, etc. Tout ça, ça fait que le cheminement, sans parler évidemment du fait que ça passe par une guerre ouverte et non pas par une négociation comme en Tunisie, hein, bah, il est évident que ça marque le nationalisme algérien, y compris en ce moment où nous parlons, ça marque la spécificité de ce nationalisme, de ce sentiment national par rapport au Maroc, qui a une tradition monarchique dont, vous le savez bien, la France a été co-gérante, puisque, je vais simplifier, mais Lyautey restaure, faut le dire quand même clairement, restaure l'autorité des monarques, qui était très très faible. Quand les Français arrivent, la monarchie est en train de s'effondrer au Maroc, hein, faut quand même le dire. Bah, donc tout ça, ça définit des chemins différents. Et alors, dès qu'on va vers l'Afrique subsaharienne, on est face effectivement à ces fameux découpages territoriaux. Sauf erreur, je parle sous votre contrôle de spécialiste de l'ONU, le dernier État admis à l'ONU, c'est le Sud-Soudan, qui, comme l'Érythrée, est la preuve qu'il n'y a pas d'intangibilité des frontières en Afrique, et que c'est évidemment l'inquiétude dominante, sauf que c'est vraiment ça, l'accession au national.
Et j'ajoute que dans votre raisonnement, quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez aussi beaucoup de l'Afrique du Sud.
Oui.
Dans la constitution d'une nation qui est l'aboutissement d'une libération, enfin d'une lutte nationale, enfin d'un front de libération.
L'exercice de style que je faisais dire avec mes étudiants et que je refais dans le livre de façon plus détaillée concerne les symboles actuels au moment où nous parlons de l'Afrique du Sud, en particulier le drapeau et l'hymne. C'est fascinant. Le drapeau, c'est pas le drapeau de l'ANC. C'est pas l'ANC qui prend le pouvoir et qui élimine l'ancien drapeau. C'est l'ancien drapeau déchiré par une sorte de flèche zoulou aux couleurs de l'ANC. Mais il reste l'ancien drapeau de la suprématie blanche, même si l'orange néerlandais, c'est un peu coloré en rouge. Et ça, c'est le projet, c'est-à-dire c'est l'utopie au sens étymologique du terme de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Si ce n'est pas la valise ou le cercueil, c'est-à-dire après la suprématie blanche, suprématie noire, et vous partez. Et ça se voit dans la symbolique. Et l'hymne, du coup, j'ai enquêté sur l'hymne national sud-africain, c'est fascinant. C'est d'abord un hymne protestant, d'origine galloise, comme par hasard, méthodiste, donc ça dit beaucoup de choses quand même, hein, même repris par l'ANC. Et par ailleurs, avec plusieurs couplets en plusieurs langues nationales. C'est tellement l'Afrique du Sud, c'est-à-dire, je suis pas en train de dire que l'Afrique du Sud c'est un miracle, peut-être que ça pourrait s'effondrer un jour, hein. Peut-être que ça pourrait s'effondrer, mais pour l'instant ça tient.
Pascal Horry, dans votre livre, vous avez une partie qui est, toutes les parties sont intéressantes, mais qui est particulièrement originale. Quand vous parlez de la nation, vous dites que c'est une construction poétique.
Oui, mais ce que je viens de donner comme exemple, à savoir qu'il faut des symboles à la nation, mais je signale qu'il faut des symboles à toutes les communautés politiques, il fallait des symboles à l'internationalisme aussi. Le jour où Staline, en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est quand même une information qui passait comme ça, en pleine Seconde Guerre mondiale, Staline remplace l'international comme hymne de l'Union soviétique par un hymne russe qui d'ailleurs, d'une certaine façon, est assez largement encore l'hymne russe. C'est très impressionnant comme évolution, comme reconnaissance. Donc, le poétique, c'est que il faut travailler sur le nom du peuple.
Pas de politique sans poétique.
Ah ben, évidemment. C'est pour ça que dire tout ça, c'est construit. C'est faire preuve d'une complète incompréhension de l'importance de l'émotionnel en politique. Pendant très longtemps, la science politique était rationnelle. Évidemment, elle s'est rendue compte qu'elle allait dans le mur. Aujourd'hui, on est bien d'accord pour dire que l'émotionnel, c'est important. Et l'émotionnel, ça passe par des symboles, ça passe par des mythes. Mais je rappelle que le mot mythe, c'est pas du tout péjoratif. Mythos en grec, ça veut dire « je vous raconte une histoire ». Ça s'oppose à logos, je vous tiens un discours. Bon, donc on est dans l'émotionnel, on est dans l'affectif, on va vous raconter l'histoire de ce beau peuple qui a évidemment toutes les qualités, ah oui, mais qui de temps à autre se déchire, ah ben oui, c'est bien dommage, c'est ça. Bon, et puis nous avons des héros, alors les Français ont beaucoup fabriqué de héros qui ont servi parfois de modèle, mais enfin tous les peuples ont ça, je parlais des Finlandais, bon, tous les peuples baltes ou scandinaves ont leur héros, le Kalevala en Finlande, bon, c'est une épopée, quoi.
On a parlé ici même, dans cette émission, Pascal Horry, de l'écrivain national aussi.
Tout à fait. Au XIXe siècle en particulier, il y a les écrivains, les musiciens. Hein. très important, oui. Les musiciens nationaux, les cinq en Russie, puis Smetana, oui, brutalement, chaque pays. L'identité tchèque est très liée à une affirmation musicale face à une culture germanique qui est très musicale, mais là aussi, c'est retour à l'envoyeur.
Alors ça, on est dans un domaine que vous connaissez particulièrement bien, c'est l'histoire culturelle. Cette notion de culture est très importante dans la fabrication d'une nation.
Oui, parce que comme déjà, le peuple initial, petit p, s'affirme par... Une langue, ça ne veut pas dire que le peuple voisin n'est pas la même langue. C'est toute la différence entre l'Allemagne et l'Autriche, par exemple. Mais ça s'explique très bien. L'Autriche a une nécessité qui, entre parenthèses, joue aujourd'hui. C'est-à-dire, face à l'infidèle musulman, nous dressons le soldat chrétien. Hein? Österreich. Le traumatisme hongrois d'avoir été dominé pendant plus d'un siècle par les Turcs. C'est de l'actualité. Je suis en train de vous parler d'aujourd'hui, là, et pas simplement du passé. Donc, tout ça... C'est du culturel, retravaillé évidemment au profit de l'identité, parfois d'un État ou d'un mouvement national, puisque nous parlons aujourd'hui aussi de la Catalogne, de l'Écosse, du Kurdistan, pourquoi pas de la Nouvelle-Calédonie, etc.
Ou des Arméniens également ?
Oui, bah les Arméniens, le problème des Arméniens, j'allais dire, oui, alors de toute façon, dans l'actualité chaude, la guerre entre Arméniens et Azerbaïdjanais, pour ne pas dire azéri, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment une guerre 19e siècle. C'est-à-dire que, avec l'effondrement de la guerre froide, tout est décongelé, quoi. Et les fameux conflits, regardez l'explosion de la Yougoslavie. Dans ma jeunesse, la Yougoslavie, c'était l'autogestion. Alors, il y avait des débats, l'autogestion, c'est vrai. Personne ne se posait la question de l'étrangeté du terme de Yougoslave. Personne ne se posait la question de l'étrangeté du terme tchécoslovaque. Parce qu'il y a deux peuples qui ont disparu depuis la chute du mur de Berlin. Les tchécoslovaques, ils ont plus de place, tchécoslovaques, et les yougoslaves. je sais pas ce qu'en pense Enki Bilal, par exemple, mais bon.
Ils ont disparu.
Donc, effectivement, le poétique est absolument indispensable dans un système qui tient.
Alors d'ailleurs, vous en avez parlé il y a quelques minutes, Pascal Horry, vous avez même examiné les drapeaux dans votre analyse sur la
nation.
Tout
à fait. Alors c'est un souvenir d'enfance aussi, parce que les pages de drapeaux...
Tous les enfants étaient fascinés par les pages de drapeaux.
C'est extraordinaire. Et l'évolution... Je suis tombé sur une brochure il y a quelques années, très intéressante, sur les différents drapeaux d'Afghanistan. Depuis le XXe siècle. Alors, premièrement, avoir un drapeau national, c'est un signe d'entrée dans la modernité. Par exemple, le drapeau tricolore français, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'association du drapeau blanc monarchique et du bleu et du rouge de la ville de Paris. Non. Oui. Les trois couleurs associées étaient avant 1789 les couleurs de la libération. Elles sont assez largement d'inspiration, d'ailleurs, Provinces-Unies et américaines. Le tricolore, qui était plutôt horizontal et qui va être... La grande nouveauté française, c'est de verticaliser le tricolore, bleu, blanc, rouge. En revanche, les monarchistes, qui du coup sont antinationaux au départ, sont obligés d'adopter une symbolique. Et ils inventent le drapeau blanc. Parce que c'est contre-intuitif, ce que je dis. On a l'impression qu'il y avait le drapeau blanc avant. Mais non! Les monarchies n'ont pas besoin de drapeaux. Elles ont 150 drapeaux différents. Et le drapeau national, c'est un signe d'entrée dans la modernité. En Afghanistan, ils en ont consommé une dizaine. Le drapeau des talibans était blanc. Ça dit beaucoup de choses.
Alors, vous êtes intéressé aussi aux hymnes nationaux, qui sont très importants, hein, qui peuvent changer. Vous l'avez dit il y a quelques minutes à propos de l'URSS, par exemple.
Oui, ou de l'Afrique du Sud. Effectivement, le God Save the King, Queen et la Marseillaise ont une force particulière qui inspire d'ailleurs beaucoup d'autres pays, parce que ils sont nés du peuple. C'est-à-dire que c'est pas comme ça arrive dans un certain nombre de pays, y compris par exemple en Afrique, où il y a une sorte de commission qui se réunit et puis c'est très froid comme décision. Tandis que la Marseillaise, le God Save the King, ça sort de la rue qui a peur et qui veut bander les énergies. C'est quand Charles-Édouard descend de son Écosse quasi natale avec l'histoire, et que l'histoire sont à quelques lieues, d'une certaine façon, de Londres. C'est chaud. Et on se met à chanter le God Save the King. La Marseillaise, 1792. Et alors là, ça donne une force exemplaire. Et d'ailleurs, chanter la Marseillaise, dans beaucoup de pays étrangers au 19e siècle, c'est un signe de libération. Bon, la Belgique, bien entendu, mais l'Europe centrale...
Alors, il y a un autre aspect de cette poétique qui construit la nation, c'est la langue, d'évidence.
Et il y a des pays pour lesquels la langue est essentielle. Donc, pour la France, ça va de soi, à mon avis, c'est l'association monarchie et catholicisme. Donc, il y a une focalisation sur la langue. Quand la monarchie commence à grignoter les positions catholiques. Par exemple, il y a le fameux édit de Villers-Cotterêts au XVIe siècle, il est souvent mal compris.
Ah oui, vous dites que c'est pas un édit qui prévoyait, qui décidait que la langue française serait la langue française, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça. L'ennemi, c'est pas du tout les patois, entre guillemets. Moi, je suis personnellement d'origine bretonne. de naissance. Bon, il est clair qu'il y a tout un nationalisme breton qui dit regardez l'édit de Villers-Cotterêts, etc., qui a écrasé les dialectes. Mais c'est pas du tout le problème. À l'époque, le problème, c'est le latin. C'est le latin. C'est-à-dire que la modernité, c'est de dire nous, la monarchie, on dit pas encore laïque, évidemment, ils ne peuvent pas le dire. Mais enfin, moderne, eh ben, nous imposons le français. Contre le latin. C'était ça l'enjeu. C'était pas les dialectes. Les dialectes, la question a été résolue par le simple fait qu'il n'y a jamais eu un état picard, qui a imposé le picard, etc. Donc, voilà. Il y a des circonstances historiques qui font que cette étape est manquée. Et puis, voilà. Donc, la langue, en France, pour diverses raisons, via le relais, évidemment, moderne de l'école, etc., c'est considérable. Il y a d'autres pays. Alors, cette fameuse Suisse qui me fascine, parce que c'est une expérience nationale extraordinaire.
C'est le pays heureux par excellence.
Oui, d'ailleurs, je consacre aussi une page au Luxembourg, oui, en disant que le Luxembourg, c'est une réussite et que, évidemment, tout le monde se fiche du Luxembourg. Parce que les Allemands, les Français viennent de très grands pays. Le Luxembourg, c'est la formule du Luxembourg, c'est petit pays. Hein. C'est le petit pays qui a été quand même deux fois occupé par l'Allemagne, qui est né de façon très problématique au 19e et qui n'a pas cessé de renforcer son idée et une identité. Par rapport à il y a 50 ans, on parle beaucoup plus luxembourgeois aujourd'hui au Luxembourg qu'il y a une cinquantaine d'années. Et dans le cas de la Suisse, vous avez quand même quatre langues officielles, y compris le romanche qui a été ajouté dans les années 30. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Hitler. Et qu'il fallait dire à monsieur Hitler que, bien sûr, il y avait des alémaniques, mais il y avait aussi les francophones et les italophones. Et puis même, il y avait une langue typiquement suisse, et on peut discuter, proche du ladin, mais c'est pas tout à fait du ladin. Et monsieur Hitler, ben, voilà, vous voyez, nous ne sommes pas germaniques.
Hein. Dans ce livre très riche, on le devine à vos propos, Pascal Horry, c'est encore plus riche dans le texte, qui vous nous faites voyager dans le monde entier autour de cette notion de nation. C'était vraiment un livre passionnant. Vous nous parlez aussi des noms même des pays. Et vous prenez par exemple l'exemple de la Macédoine.
Ah, c'est un exemple extraordinaire, puisque effectivement à l'ONU, jusqu'à ces derniers temps, la Macédoine n'existait pas. C'était Former Yugoslavian Republic of Macedonia, donc l'ancienne république.
C'est un drôle de nom.
Oui, tout simplement à cause du veto grec. Ah oui. Et d'ailleurs, on peut comprendre le veto grec, sauf que ça remonte loin. C'est-à-dire que déjà à l'époque turque, on parle de Macédoine alors qu'il s'agit de Slaves. Alors que pour les Grecs, ce qui est insupportable, c'est que les vrais Macédoniens sont des Grecs, des Hellènes, et que les Slaves usurpent cette notion. Alors, c'est comme toujours dans une tragédie, les deux ont raison. C'est un peu comme l'Inde et le Pakistan. Pourquoi est-ce que c'est tragique, l'Inde et le Pakistan? C'est que la logique du Parti du Congrès consiste à dire, nous sommes tous indiens, quelle que soit notre religion. C'est pour ça que pendant un certain temps, il y a eu des chefs d'État indiens qui étaient musulmans, pour bien envoyer le message. Et en face, il y avait ceux qui disaient, mais nous ne sommes pas sur le même terrain, la Ligue musulmane, en plus Mohamed Ali Jinnah était assez peu orthodoxe sur le plan du rapport à l'islam, mais il disait, nous les musulmans, on a bien compris, nous allons être discriminés si vous, les hindous, vous prenez le pouvoir. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'époque de Monsieur Modi, il y a une tournure anti-musulmane qui est prise, et pro-hindouiste. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, aujourd'hui, l'Inde est dirigée façon pakistanaise. C'est assez impressionnant.
On pourrait parler en deux mots, car le temps passe très vite avec vous, Pascal Horry, du royaume de Siam, qui est devenu la Thaïlande.
Ah oui, alors ce qui est très intéressant en ce qui concerne les noms, c'est le moment où, sur un modèle qui est le modèle turc, principalement, l'Iran, qui s'appelait Perse pour les diplomates, dit, mais non, nous sommes toujours appelés Iran. Hein, donc, bon, prière de... effectivement, Siam, c'est un nom d'étranger. Non, nous sommes le pays des Thaïs. En plus, les hommes libres, etc. Donc, c'est très intéressant de se réapproprier comme ça une identité qui fait fi de la géopolitique à l'ancienne.
Un dernier exemple précis autour de cette poétique de la nation, le choix d'une capitale. Et là, il y a des exemples très intéressants. Le Brésil, il y a la Turquie, il y a des pays qui ont changé. La Russie, Saint-Pétersbourg, Moscou, qui ont changé de capitale. Et ça veut dire à chaque fois quelque chose.
Ça a du sens. Ce que j'ai découvert à cette occasion, d'ailleurs, c'est que l'idée d'installer une capitale du Brésil à l'intérieur des terres pour rééquilibrer
Brésilien,
remonte à peu près à la proclamation de la République, donc 1889, quand même, enfin à peu près. Et la réalisation est beaucoup plus tardive, mais c'est moins d'un siècle plus tard quand même, Brasilia. Et le modèle de Brasilia va inspirer, vous savez, même le Belize a déplacé sa capitale. Et évidemment, le cas le plus intéressant sur lequel je m'étends un peu, c'est le Kazakhstan. Avec des changements de nom. Mais parce que il y a eu effectivement finalement un déplacement de capital, mais d'abord des changements de nom suivant qu'on est sous l'époque tsariste, l'époque soviétique, l'époque de l'indépendance, une première époque de l'indépendance, et puis finalement, on finit par changer l'emplacement pour un pays qui était très problématique en ce qui concerne l'unité culturelle, comme on le sait, avec une très forte minorité russophone qui n'a pas cessé de diminuer, et avec une capitale qui était décalée géographiquement parlant.
Pascal Horry, vous écrivez dans votre livre, avec ses propres engagements, dévouements, sacrifices, ça résonne un peu avec ce qu'écrivait Renan d'ailleurs, la nation fait donc partie des fictions utiles sur lesquelles se fonde toute société politique. Avec le recul de 2 siècles et demi, elle s'affirme même comme la grande fiction utile de la société moderne. Qu'entendez-vous précisément par fiction utile ?
Fiction, c'est intégrer cette critique qui devient du coup un compliment, à savoir que c'est construit. Ben oui, le politique se construit sur, par exemple, des mythes. L'essentiel, c'est de vérifier pour un historien si ça marche ou pas. Le mythe internationaliste, issu de l'Union soviétique, de la Révolution bolchevique, a marché, et puis n'a plus marché. Donc, on en est là aujourd'hui. Le populisme, qui semble, depuis le vote du Brexit, voire même le rejet en 2005 de la Constitution européenne, pour laquelle s'était tellement battu le défunt président Giscard d'Estaing, semble, dans cette ère populiste dans laquelle nous sommes, est évidemment aussi une ère nationaliste. La pandémie, dans laquelle nous sommes toujours à cette minute où nous parlons, a plutôt renforcé des identités nationales, la distinction entre les politiques menées, et regardez la pauvre Union européenne qui est à la peine. Même sur le plan de la pandémie, même si on commence à voir des politiques coordonnées se mettre en place pour le vaccin. Donc, franchement, la nation a de beaux jours devant elle.
Alors, elle a de beaux jours devant elle, même dans une ère de globalisation, pour reprendre ce terme. C'est-à-dire que les deux peuvent se...
Mais oui, parce que là aussi, je me rappelle, avec mes étudiants, juste après la chute du mur, quand la Yougoslavie était en train d'éclater, je leur disais, mais est-ce que vous pensez que les amateurs de rock serbes et croates, parce qu'il y avait une école de rock yougoslave intéressante, et ils écoutent le même rock et ils s'entrégorgent quand même. Parce que c'est pas sur le même plan. Donc c'est naïf de dire, vous voyez, il y a mondialisation de la culture, oui, et encore, il y a mondialisation de l'économie, il y a mondialisation de la technologie, mais pourquoi ça produirait du mondialisme ? Eh bien non, ça ne produit pas automatiquement du mondialisme, et à l'heure où nous parlons, le mondialisme est plus éloigné qu'à mon avis il y a 10 ans.
Et l'internationalisme est à réinventer en quelque sorte.
Sans doute, l'organisation des Nations Unies
qui est en panne,
et c'est pas la première fois, est une organisation d'État. Déjà, première.
Oui, d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté. On parle d'organisation des Nations Unies, alors qu'on devrait dire l'organisation des États-Unis.
Exactement. Et la modernité est fondée quand même sur l'idée que des États peuvent s'unir. Ça donne Provinces Unies, ça donne États-Unis, puis ça donne la Suisse, par exemple. Eh bien, on est quand même franchement à la peine là, sur ce plan-là.
Donc la nation, c'est une notion à réinventer en quelque sorte.
Je crois que nationaux à travers le monde, mais aussi les nationalistes, et je fais la distinction, la réinventent tous les jours.
Merci Pascal Horry, votre livre que je recommande, qui est très riche, qui nous fait voyager, comme on l'a pu le constater pendant cette émission, s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale ?» Il est publié chez Gallimard dans la bibliothèque des histoires.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, sur votre moteur de recherche préféré, ainsi que sur l'application RFI Pure Radio par exemple. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.